Il est 12h30 sur France Culture et c'est l'heure des informations avec vous, Ludovic Piétenu.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'adresse télévisée de François Hollande hier soir aux Français n'a pas convaincu les éditorialistes de la presse ce matin, mais l'émission ne s'adressait pas à eux, mais à ceux qui souffrent de la crise, nous dira Christine Monclin. Stéphane Robert reviendra sur les quelques annonces, maigres annonces du chef de l'État. Commentaire assuré par notre invité ce midi, le député socialiste frondeur Pouria Amirshahi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Nous parlerons de ce rapport aussi proposé par l'un de vos collègues, le député radical de gauche Alain Touré. Rapport rendu public aujourd'hui, 20 pistes pour maîtriser les dépenses dans la fonction publique. Nous verrons avec Cyril Peter ce qu'il propose. À Bruxelles, la réunion Ecofin, celle des 28 ministres des Finances de l'Union Européenne. C'est la crise ouverte avec Londres, nous dira Pierre Benazé en direct. Nous irons aussi du côté de Berlin où notre envoyé spécial Jean-Marc Chardon analysera pour nous l'annonce inattendu du ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble. Au menu de ce journal, la situation au Burkina Faso et puis la bande de Gaza où 10 explosions ont été entendues ce matin. Elles visaient des biens du Fatah. La bande de Gaza derrière une barrière, les murs. Caroline, ce sera le sujet de la deuxième partie de la Grande Table à 12h55.
Oui, ce que les murs font aux hommes et comment les murs peuvent symboliser une autre histoire des hommes. Bien, c'était le titre d'un livre de l'historien Claude Quettel paru en 2012 et dont nous allons parler en dernière partie en sa compagnie.
À tout à l'heure. Pas très convaincant, écrit ce matin le quotidien Libération. Le format de l'émission s'est refermé sur lui comme un piège. Encore raté, titre le Figaro. Qu'est-il allé faire dans cette galère, s'interroge l'un de ses éditorialistes. Laurent Geoffrin lui a aimé l'honnêteté, seul reproche qu'il formule au chef de l'État, ne pas avoir parlé à la gauche déconcertée. L'émission à laquelle participait hier soir François Hollande pour marquer ses 2 ans et demi de mandat a réuni près de 8 millions de téléspectateurs. 30% de part de marché pour TF1. L'audience n'est pas mauvaise. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Ludovic.
François Hollande a choisi d'être économe en matière d'annonces. Que faut-il retenir sur le fond de cette émission ?
Pas grand-chose, effectivement. François Hollande est surtout resté dans l'explication et la justification des réformes qu'il avait déjà engagées. Alors la principale annonce à retenir est en fait l'annonce de ce qu'il n'allait pas faire ou plus faire.
Il n'y aura pas d'impôts supplémentaires sur qui que ce soit. Il y a un moment où la classe moyenne supérieure ne peut plus accepter d'augmentation d'impôts.
Faut-il le croire sur cette question ? On peut en douter, surtout quand on sait que les dotations aux collectivités locales vont baisser de plusieurs milliards d'euros et qu'un certain nombre d'entre elles, les départements notamment, seront sans doute dans l'obligation de recourir à la hausse des taxes pour compenser. À retenir également dans l'intervention d'hier soir, un geste en direction des personnes âgées pas encore retraitées.
Pour les personnes qui ont leur droit à la retraite et qui ont plus de 60 ans, eh bien, elles auront une prestation qui leur permettra d'aller jusqu'à la retraite dans de bonnes conditions. Et si vous n'avez pas les annuités, eh bien, ce sera un contrat aidé qui s'ajoutera à votre ASS, c'est l'allocation de fin de droit.
François Hollande réactive là l'allocation équivalent retraite, l'AER, supprimée en 2011, correspondant à une aide complémentaire en attendant que les personnes puissent faire valoir leur droit à la retraite. Et puis il promet des contrats aidés pour ceux qui n'ont pas encore leurs annuités. On ne sait pas bien comment ça va s'articuler ni comment ce sera financé. En direction de la jeunesse maintenant, pas grand-chose là encore, si ce n'est qu'on proposera aux 16-25 ans une deuxième chance, à savoir un stage ou un apprentissage, là non plus rien de concret. Et puis dans les collèges, il promet la formation au numérique dès la 5e.
L'année 2016, tous les élèves de classe de 5e seront équipés d'une tablette et auront une formation avec le numérique.
Au final, on peut parler d'annonce à la marge. Le but de la prestation était plus manifestement de faire le bilan des 2 ans et demi écoulés.
Stéphane Robert, et tout cela dit sur un ton doux, plutôt patelin, dit-on, doux, bas, des formulations simples. François Hollande a joué en tout cas la carte de la proximité, comme s'il rejouait aussi la posture du candidat qu'il a été, Christine Monclin. Le président a parlé aux Français, mais pas forcément à tous les Français. À qui s'est-il adressé ?
Il l'a dit lui-même, aux gens. C'était l'un des éléments de langage de ses communicants. Il fallait absolument replacer cette formule qui avait fait mouche au Bourget en 2012. « J'aime les gens » et François Hollande l'utilise dès les premières minutes de l'émission. Ces gens, ce sont dans sa tête tous les Français, mais surtout ceux qui le font plonger dans les sondages. En leur disant « Je suis la France et la France a des atouts », il espère sortir sa propre image et son pays de la déprime. Et aux gens de gauche qui l'ont élu et qui se sentent trahis, ceux qui demandent une réorientation de sa politique économique, François Hollande répond aussi, mais par la négative. Le cap des réformes sera maintenu jusqu'au bout. Emmanuel Valls applique la politique que je décide. Point. Nous sommes un tandem, temporise ce matin le Premier ministre, qui a trouvé son président courageux, ce qu'il ne faut pas forcément prendre pour un compliment. D'ailleurs, tant l'exercice aura été périlleux, il faut dire que le dispositif d'une telle émission voulue par l'Élysée ne peut que produire des situations totalement artificielles, où les questions servent finalement de présentoir à ces quelques annonces, et où, même si la prestation est globalement bonne, l'image présidentielle se perd entre celle du bon docteur Hollande et celle d'un chef d'État empreint de gravité. Ses conseillers eux-mêmes le reconnaissent ce matin. Cette émission ne bouleversera pas l'opinion, tout juste montre-t-elle le chemin.
Christine Moncla. Pouria Amir Chahi, députée socialiste des Français de l'étranger, circonscription qui regroupe l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Bonjour.
Bonjour.
Rebonjour. Vous avez entendu ce qu'a dit le chef de l'État. J'imagine que vous avez suivi cette émission.
Oui, oui.
Vous en retenez quoi, vous puisque en substance, finalement, il a dit « ma politique est la bonne, j'irai jusqu'au bout ». Vous qui êtes dans les députés qu'on dit frondeurs, ça veut dire que pour les 2 ans et demi, circuler, il n'y a plus rien à voir ?
Alors d'abord, je vais vous surprendre sur un point, c'est qu'il n'a pas fait d'annonce, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, pas d'annonce fracassante en tout cas, mais je dis ça pour une raison démocratique. Je suis assez fatigué de ces présidents de la République qui se permettent, jusqu'à il y a peu encore, de faire des annonces qui structurent la France pour 50 ans sans en délibérer avec personne. On va changer les régions, on va en faire 13, on va en faire 14, on va inventer telle ou telle grande réforme structurante, ce qui posait jusque-là un vrai problème démocratique. Donc je ne me plains pas qu'il n'y ait pas eu le gadget de sortie du chapeau au dernier moment pour faire de la com. Et parfois, en guise de com, on se réveille avec des réformes, entre guillemets, douloureuses.
Bon. Ok, pour ça, la vérité, c'est que vous, vous auriez voulu un changement de ligne.
Oui, au moins remettre entre les mains du Parlement une part de la politique économique. D'abord parce qu'il revient au Parlement d'en délibérer, or c'est de moins en moins le cas, encore une fois, on est dans le pacte de responsabilité qu'il a vendu hier, cette fameuse politique de baisse massive de charges de cotisations sociales et d'économies dans le budget d'État, au moment même où, contre les thèses libérales, on a besoin d'investir massivement dans l'économie d'aujourd'hui, dans le monde de demain, dans la transition écologique, dans le monde numérique qui vient, bref, de préparer nos enfants à un monde meilleur. C'est aussi ça la politique. Or c'est ce qu'on ne fait pas. Et j'attendais que Lucide, non pas sur, à la limite, les arguments qui sont les miens, je ne suis pas obligé de le convaincre, bien que ce furent les siens au moment de la campagne présidentielle. Donc c'est bien dommage qu'il ne nous écoute pas. Mais au moins sur la réalité, 500 000 chômeurs de plus en 2 ans. Soyons honnêtes, si, et d'ailleurs quand la droite gouvernait et qu'il y avait ce chiffre, nous montions au créneau. Nous disions que ce n'était pas normal. Nous dénoncions une politique inefficace. Donc,
vous auriez voulu quoi ? Qu'il se flagelle ? Parce qu'il a fait mea culpa hier Il assume.
Qu'il demande au Parlement de délibérer de la suite de son plan de responsabilité, par exemple en disant la chose suivante. Une chose très simple. Écoutez, voilà, j'ai annoncé un plan d'économie, j'ai annoncé des cadeaux aux entreprises, même s'ils refusent le terme, sans aucune contrepartie. Il y a un bilan du fameux CICE, pardon pour vos auditeurs de tous ces acronymes imbitables, de la novlangue technocratique, mais enfin voilà, des crédits d'impôt. Écoutez, il y a un bilan qui va sortir là, qui a même commencé à être fait par le Parlement. Je demande à l'aune de ce bilan que le Parlement décide de mesures pour enfin qu'il y ait des mesures en termes d'emploi, qu'il y ait des contreparties pour les salariés, des roulements de carrière, salaires et autres, et même qu'il y ait des clauses de remboursement de ces aides publiques en cas de dévoiement de ces aides.
Parlement a déjà débattu de cela, du CICE, du pacte de compétitivité, des contreparties. Il y a déjà eu des discussions entre vous au sein de la majorité ?
Il y en a eu, et l'engagement qui avait été pris justement par le Premier ministre, c'était de dire « on fera le bilan ». Or, le bilan, on le voit quand même, c'est que d'abord, le chômage ne baisse pas, voire même qu'il monte, et qu'il y a des entreprises qui ont bénéficié de ces aides publiques, c'est de l'argent public, hein, donc on ne parle pas de n'importe quoi, qui a bénéficié à des entreprises qui n'en ont pas besoin et qui ont même augmenté leurs dividendes et la hausse des rémunérations. Bon, alors, c'est vrai que ça a été tranché par le Parlement. Moi, j'en attendais en vérité un changement de ligne, mais je vais vous dire au fond de ma pensée, je pense que puisque Manuel Valls lui-même ne va pas mener une politique qui ne lui convient pas, c'est sans doute de gouvernement qu'il conviendra de changer pour ouvrir un troisième temps du quinquennat. Mais ce n'est pas ce temps-là qu'il a voulu ouvrir hier.
Le député socialiste Pouria Amir Chahi, vous restez avec nous.
Il est déjà question de réformer la fonction publique avec 20 propositions choc, Ludovic.
Oui, le fruit d'un rapport d'un de vos collègues, Pouria Amir Chahi, un député radical de gauche, Alain Touré. 20 pistes donc pour maîtriser les dépenses dans la fonction publique. Cyril Péter en a retenu 3 pour nous.
Une des idées décapantes d'Alain Touré, c'est lui qui le dit, c'est d'en finir avec la fonction publique figée. Pour cela, il veut créer une rupture conventionnelle pour les fonctionnaires. Ce licenciement à l'amiable existe déjà dans le privé. Le but est de les pousser vers la sortie quand ils n'ont plus leur place. Une place que pourraient prendre les jeunes. L'élu radical de gauche veut promouvoir l'apprentissage des moins de 25 ans pour accéder plus rapidement à la fonction publique sans échapper au concours. La deuxième proposition qui va faire jaser, c'est sa politique de la carotte et du bâton pour inciter les collectivités à maîtriser leur masse salariale et à réduire leurs effectifs. C'est simple, Alain Tourret propose de baisser les dotations de l'État pour les collectivités qui gèlent ou réduisent leurs équipes. Pour les bons élèves, les collectivités qui, je cite, « font des efforts », l'État ne baissera pas ses dotations. L'objectif est de stopper la vague d'embauche dans la fonction publique. Selon Alain Tourret, en 10 ans, les collectivités territoriales ont créé 500 000 emplois. La société ne peut plus se le permettre, dit-il. Et enfin, troisième proposition choc, rétablir la journée de carence qui n'est pas remboursée en cas de maladie. Une mesure instaurée par le gouvernement Fillon il y a 2 ans, puis supprimée par les socialistes. Sur l'organisation du travail des fonctionnaires, le député radical de gauche prend à contre-courant ses collègues de la majorité et préconise une campagne de lutte contre l'absentéisme dans son viseur les collectivités territoriales du sud de la France où, selon lui, un agent est en moyenne absent 28 jours par an.
Cyril Péter, pour Yamir Chahi, député socialiste invité de ce journal, vous avez entendu les principales pistes d'Alain Tourret. Il veut mettre cela en débat dans les tout prochains jours à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 2015. Est-ce que vous validez ces propositions? Recherche d'économie dans la fonction publique.
Alors, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas dire, pas parler de ce que je ne connais pas. Faire des économies, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, donc il faudrait qu'on discute de l'utilité de ces économies. Mais je voudrais ainsi, donc en gros, s'il s'agit de dire qu'il faut bien gérer, très bien, la belle affaire, c'est une évidence. La question maintenant, c'est quelles sont les grandes ambitions des pouvoirs publics locaux, des territoires en particulier, et quels sont les grands projets d'investissement. Et comment on articule aussi, d'ailleurs ce serait une proposition à faire, les délibérations des assemblées locales et la vie des citoyens. Regardez le cas de Sivens, par exemple, ou le cas de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que ça pose? Ce sont des grands enjeux où on a vu des violences de manifestants, on a vu des violences policières aussi, mais il y a une violence qui est faite aux citoyens, une violence technocratique et administrative, à qui on dit on va faire des grands projets, et en guise de concertation, qui a été respecté selon les formes légales, on a en vérité un bureau administratif ouvert avec quelques papiers pour initier, très technocratique, très administratif, où on explique des grands enjeux, mais en fait, les citoyens sont peu associés. Je crois qu'il a ouvert la porte hier, le président de la République, hier à ça, c'était pas une mauvaise nouvelle, à cette idée de consultation locale. Mais en tout cas, je suis pour la démocratie directe et des référendums locaux dans ce genre de situation. Et si on veut dynamiser la vie des collectivités, il y a sans doute, comme le dit mon collègue Alain Tourret, des pistes de meilleur financement, de meilleure gestion, mais je les étudie. Donc je ne veux pas dire n'importe quoi, mais aussi des pistes sur la démocratie. Car encore une fois, si c'est juste pour répondre à un meilleur fonctionnement parce que les élus le demandent et parce que les administrations et les membres des cabinets des collectivités locales le demandent, c'est très bien. Mais de quoi on parle? On parle de la vie des gens. On parle du ramassage des déchets. On parle du haut débit. On parle des transports scolaires. Voilà de quoi on parle. Donc est-ce qu'on peut, au-delà des préoccupations qui nous font pousser des cheveux à l'intérieur de la tête, très compliquées sur la bonne gestion ou la mauvaise gestion de telle ou telle collectivité, on peut juste parler de la vie des gens?
Sur la démocratie locale, vous parliez de Sivens, de Notre-Dame-des-Landes et de ces violences policières, vous y avez fait allusion avec une nouvelle mobilisation de lycéens, disons-le, ce matin encore, après la mort de Rémi Fraisse, 21 ans, sur ce site, ce projet de barrage. Une question de Christine Moncla du service politique qui est restée dans ce studio.
Oui, sur ce drame qui est quand même celui de la mort d'un très jeune manifestant tué par une grenade de la gendarmerie. Le gouvernement défend sans faille, soutient sans faille les forces de l'ordre et renvoie régulièrement la responsabilité d'ailleurs sur les manifestants. Est-ce que vous êtes solidaire de ce discours qui est présenté comme celui de la responsabilité?
Bon, je comprends que Bernard Cazeneuve ne veuille pas se faire entre guillemets insulter ou traiter d'assassin. Parce que c'est ça qui est dit dans les polémiques, mais il faut quand même dire les choses. Une bavure, c'est une bavure. Voilà. Il y a aujourd'hui un mort qui est mort, tué par une arme lancée par des forces de l'ordre. Et c'est inadmissible en soi. Et on ne nie pas une bavure, sauf à insinuer que ça aurait été fait exprès. Bon, donc si c'est pas le cas, il faut au moins reconnaître les choses comme elles sont. Une bavure sur la droite, une bavure sur la gauche, ça reste une bavure, c'est insupportable. Quand on meurt pour ses idées, c'est déjà inadmissible, parce que le camp adverse veut vous en empêcher, mais alors qu'en plus c'est dans un état de droit, c'est insupportable. Derrière cet enjeu-là, il y a évidemment, derrière cette polémique, parce qu'elle est terrible, elle repose, elle tourne autour de la mort d'un jeune homme, il y a plein de questions qui sont posées. Évidemment, on va laisser l'enquête se faire. Mais au fond, il est possible, je crois, en France, de manifester et de laisser manifester pacifiquement des gens sur des projets aussi importants, sans qu'on soit dans un affrontement radicalisé, violent, où même les forces de l'ordre en viennent à des gestes qui sont inexcusables.
Mais pourquoi la gauche de la gauche, vous n'êtes pas vent debout justement contre cette négation de la bavure ?
Bah, je viens de vous répondre, je l'ai déjà dit moi.
Mais on n'entend pas beaucoup de voix.
Bah, vous avez la mienne ici, je vous le dis. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a sans doute une gêne parce que il y a l'ombre de la mort qui plane sur. Voilà, sur la conscience de tout le monde, parce qu'un jeune qui meurt pour ses idées, un jeune pacifiste qui meurt pour ses idées, en plus une belle idée, ça glace. Donc personne n'a envie de polémiquer. Je vais vous dire, je pense que politiquement, peut-être des gens, très légitimes, très honnêtement, et je le comprends moi-même, parce que je n'ai pas parlé tous les jours de cette situation, ne veulent pas donner le sentiment qu'ils instrumentalisent ce drame-là. Bon. Mais ça doit poser des sujets sur le rapport avec les forces de l'ordre, l'utilisation des forces de l'ordre, et aussi, encore une fois, la citoyenneté dans les grands bassins de vie, parce que si on demandait aux juges de paix, les seuls que je connaisse, à savoir les citoyens, de trancher des grands projets en votant, bah peut-être qu'on n'aurait pas ce genre de conflit, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes ou que ce soit à Sivens.
Vous restez avec nous pour Yann Mircher.
Il est 12h46 sur France Culture. À Bruxelles se tient la réunion Ecofin, celle des 28 ministres des Finances de l'Union européenne, et elle s'est ouverte ce matin.
Voilà, c'est comme ça, une fois par mois, et cette fois, beaucoup de choses, Caroline, trop de choses peut-être à leur menu. Les prévisions de croissance revues à la baisse il y a 48 heures, prévisions de croissance revues à la baisse dans la zone euro et au-delà. Il y a les révélations aussi dont on vous parlait hier ici même sur le Luxembourg et ses accords fiscaux secrets signés depuis 2002 avec pas moins de 340 multinationales afin qu'elles minimisent leurs impôts. Dans cette réunion aussi, le Royaume-Uni qui hausse le ton. En effet, ses partenaires européens lui réclament avant le 1er décembre un peu plus de 2 milliards d'euros que Londres, Pierre Benazé, ne veut pas payer. Vous êtes en direct de Bruxelles, aux portes de cette réunion, Pierre. C'est une somme donc que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ne veut pas verser aux pots européens.
Oui, effectivement. Selon les nouvelles règles comptables que l'Union européenne a adoptées il y a 4 ans, les contributions de chaque pays ont dû être entièrement revues. Le nouveau mode de calcul est censé mieux tenir compte de la réalité des économies nationales et donc des revenus des gouvernements. Si, pour certains, les changements sont marginaux, d'autres bénéficient de réductions substantielles. Moins 780 millions pour l'Allemagne et environ 1 milliard d'euros en moins pour la France. En revanche, certains, effectivement, subissent de plein fouet une augmentation de leurs contributions. Pour la Grèce, c'est 90 millions d'euros, l'Italie 300 millions, les Pays-Bas 600 millions, et pour le Royaume-Uni, vous l'avez dit, c'est 2,1 milliards d'euros, et ces fonds sont censés être versés pour le 1er décembre. Cela a provoqué, on s'en souvient, la semaine dernière, lors du sommet européen, de vives échauffourées. Le Premier ministre italien Matteo Renzi avait accusé les fonctionnaires européens d'être des bureaucrates sans cœur. Le Britannique David Cameron avait menacé de ne pas payer la facture calculée avec ces nouvelles règles. Des règles dont on rappelle ici, en passant, que le Royaume-Uni avait été le plus chaud partisan. Le ministre britannique des Finances est arrivé à cette réunion en déclarant qu'il n'était pas acceptable que le Royaume-Uni paie. Et ce matin, les ministres des Finances ont imaginé qu'en cas, je cite, de circonstances exceptionnelles, il pourrait être possible d'accorder des délais de paiement et un fractionnement des versements. On ne sait pas encore quels pourraient être ces délais, mais en revanche, ces facilités de paiement seraient accordées à tous les États concernés et pas seulement au Royaume-Uni.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles. Sur ces discussions économiques entre ministres des Finances, l'un d'entre eux a eu une idée à rebours des précédentes déclarations, l'allemand Wolfgang Schäuble. Allons donc à Berlin retrouver notre envoyé spécial Jean-Marc Chardon. Le ministre allemand veut 10 milliards d'euros d'investissement entre 2016 et 2018. Jean-Marc, c'est un soutien à la croissance inattendu.
Oui, et l'on peut interpréter l'annonce de Wolfgang Schäuble comme l'esquisse d'un changement, même si le montant de 10 milliards d'euros d'investissement est tout de même modeste. Il s'agit peut-être d'un premier pas. Ici à Berlin, on entend fréquemment les économistes évaluer le montant des investissements publics nécessaires à beaucoup plus, 40, 50 milliards au bas mot, voire le double si certains, surtout pour moderniser les infrastructures routières et ferroviaires. On est donc très loin d'un véritable plan d'investissement, tout juste d'un coup de pouce à la conjoncture. L'Allemagne, tout en restant à la pointe de la croissance en Europe, est obligée de constater que cette pointe s'émousse, qu'elle-même pourrait se laisser entraîner dans un processus de ralentissement. La crainte d'une déflation qui serait pire que l'inflation se fait jour outre-Rhin. Et cela, quand bien même on joue très prudemment avec ce paquet de 10 milliards qui n'est pas encore sur la table. Et puis, pas très pressé non plus, puisqu'il commencerait à courir dans les prochaines années. C'est plus finalement un signe qu'un geste résolu. Il ne risque pas de déstabiliser le budget fédéral, ni même celui des États-régions, avec cette somme qui n'est pas vraiment sur la table, pas encore en tout cas. L'Allemagne ne risque donc pas de relancer sa croissance à crédit. Cela, c'est toujours la hantise du gouvernement allemand.
Jean-Marc Chardon en direct de Berlin. Un autre sujet débattu entre Européens dans ce journal, nous avons choisi de revenir sur une décision prise hier à Paris entre ministres de l'Intérieur dits du G6, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la Pologne. Abdelhakel Idrissi, bonjour.
Bonjour.
Leur débat porté, comme depuis plusieurs semaines déjà, on en a parlé dans ce journal, sur la lutte contre le terrorisme et les candidats au djihad. Tous ces ministres ont décidé, on le sait, d'une politique commune en la matière. Là, il s'agissait d'ajouter, comme aux États-Unis déjà depuis longtemps, un fichier rassemblant les données fournies par les voyageurs aux compagnies aériennes. Ça pose question évidemment sur la protection de la vie privée.
Ouais, ce fichier s'appelle PNR. La France en dispose déjà depuis 2006. Les compagnies aériennes transmettent donc au ministère de l'Intérieur toutes les informations recueillies sur les passagers voyageant de la France vers l'étranger et inversement. Mais ces données ne concernent pas les vols à destination ou en provenance des pays de l'Union européenne. C'est pourtant à ce niveau que le dispositif est potentiellement efficace. D'où la volonté des ministres de l'Intérieur du G6. Mais leur projet soulève de nombreuses questions. Le fichier PNR est composé de nombreuses informations très personnelles. Quid alors de la protection de la vie privée, du respect des libertés fondamentales ? La CNIL s'est toujours prononcée contre la collecte généralisée et systématique de données personnelles. Ensuite, un tel fichier peut amener à soupçonner un passager à partir de son seul nom de famille ou parce qu'il a coché la case halal dans la catégorie des repas lors de sa réservation. Enfin, il s'agit d'informations déclarées par les passagers, non vérifiées par les compagnies aériennes, donc potentiellement fausses. C'est pour ces raisons que le Parlement européen a rejeté une proposition de directive voulant créer un fichier PNR européen. C'était l'année dernière. Les députés ont estimé que la lutte contre le terrorisme ne justifiait pas de telles intrusions dans la vie privée.
Abdelhakel Idrissi, vous faites réagir notre invité, Pouria Amirshahi, député socialiste. Juste d'une phrase, Pouria.
Moi, je suis très inquiet de cette dérive de fichage généralisé. Et puisque je n'ai qu'une phrase à dire, je conseille à tous nos auditeurs de relire 1984 d'Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça fera beaucoup réfléchir sur la mauvaise pente qui parfois est prise, y compris par des démocraties.
Donc on en est là en Europe. Merci.
On est là en Europe, oui.
Alors, on part au Burkina Faso. Au Burkina Faso, une procession est prévue aujourd'hui sur la tombe de Thomas Sankara.
C'est l'ancien président assassiné il y a 27 ans avant que Blaise Compaoré ne prenne le pouvoir et ne le garde jusqu'à la semaine dernière et sa démission. Thomas Sankara, c'est une icône. On a vu son portrait dans les récentes manifestations au Burkina. On a envie de parler avec vous, évidemment, de la situation dans ce pays pour Yamir Chahi, parce que vous êtes député de cette circonscription pour les Français de l'étranger. Vous connaissez le mouvement de la société civile qui s'organise... qui organise d'ailleurs cette procession aujourd'hui sur la tombe de Thomas Sankara. Ça s'appelle le Ballet Citoyen. Il participe à des négociations en ce moment, des discussions pour une transition dite démocratique et civile, sauf qu'il n'y a pas les proches de Compaoré. Est-ce qu'il faut les intégrer, selon vous ?
Oui, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait, enfin c'est pas à moi de le dire à leur place, mais une concorde nationale pour au moins un processus de transition. C'est comme ça que ça marche, en tout cas que ça a marché en Tunisie, que ça a marché au Sénégal, c'est-à-dire qu'une partie de l'ancien pouvoir acceptait d'abord d'être démise de sa majorité, mais en même temps était intégrée dans un processus. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'effectivement, il y a un gouvernement civil, parce qu'on ne peut pas laisser aux militaires le soin de décider de tout, même si on comprend qu'il y a une situation particulière et qu'il faut souhaiter plutôt un dénouement à la nigérienne, c'est-à-dire après la période Tanja, le coup d'État et derrière des élections. Il faut quand même qu'il y ait un gouvernement civil, qu'il y ait le ministre des Affaires courantes et qu'il y ait une date.
La difficulté, c'est de trouver la personne idoine.
C'est compliqué, mais vous savez, on peut toujours être capable, c'est moi qui vais vous vendre ça, c'est bizarre, c'est le paradoxe, mais un gouvernement de technocrates de transition. Ça s'est fait en Tunisie, par exemple, et ça s'est fait en bonne intelligence. Bon, ce sont des circonstances historiques exceptionnelles. Donc je pense que dans cette affaire-là, si toutes les forces politiques mettaient de la bonne volonté, je crois qu'elles en mettent pour réussir cette transition, ce serait possible, sachant qu'en plus au Burkina Faso, que ce soit à Bobo-Dioulasso, que ce soit à Ouagadougou ou ailleurs, il y a une société civile active, organisée, qui est assez exigeante, et qui peut parfaitement, je crois... faire pression sur les responsables politiques pour qu'il y ait cette alternative. Il ne s'agit pas de décider du vainqueur de la révolution. Ça, c'est la prochaine élection qui le décidera. Je sais qu'il va y avoir plein de candidats à l'élection présidentielle. Mais sans décider du vainqueur de la révolution, au moins d'une administration commune. Franchement, ce serait une belle réussite et une belle leçon de choses pour tout le monde. Une belle leçon de démocratie, un bel avertissement à ceux qui veulent s'accrocher à leur pouvoir dans d'autres pays. Car je rappelle que d'ici 2017, il y a une vingtaine d'élections à prévoir sur le continent et là-dedans, il n'y en a pas toutes des légitimes.
On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci d'avoir été l'invité de ce journal pour Yamir Chahi, député socialiste des Français de l'étranger.
Merci à vous.
Caroline, un sujet qui va nous amener indirectement à votre débat de la grande table, à notre débat de la grande table, seconde partie. On va parler des murs, des barrières. Il y en a 50 dans le monde. Je renvoie à un numéro spécial du Courrier International en partenariat avec France Culture à l'occasion des 25 ans de la chute du mur de Berlin. Dans ce journal, c'est l'actualité qui nous renvoie au Proche-Orient, dans une région où les barrières sont légion. Bonjour Sébastien Legénie.
Bonjour.
En direct de Jérusalem, avec des explosions dans la bande de Gaza. Une dizaine entendues ce matin qui visaient toutes des biens du Fatah, Sébastien.
Oui, à cette heure-ci, on ne sait pas encore qui est derrière ces explosions, mais il semble que l'on soit encore face à un nouvel épisode de la difficile réconciliation entre le Fatah et son frère ennemi du Hamas. Alors, c'est cette nuit vers 3h du matin qu'une quinzaine de maisons et de voitures de leaders politiques du Fatah ont été visées par des engins explosifs. Aucun blessé, ni aucune revendication crédible. Parmi les dégâts, une estrade a aussi été détruite, une estrade qui devait servir à célébrer mardi prochain le 10e anniversaire de la mort d'Arafat. C'était la première fois depuis 2007 que le Fatah était autorisé à célébrer cet événement à Gaza. Ce devait être l'un des signes de cette réconciliation en marche entre le Fatah et le Hamas, mais cette célébration ne plaisait pas à tout le monde. Comme le dit un bon connaisseur de Gaza, le rassemblement se serait vite apparenté à un sondage d'opinion. Autrement dit, si des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue mardi prochain, eh bien tous les Gazaouis l'auraient interprété comme un désaveu du Hamas. Le premier ministre de l'autorité palestinienne, qui devait arriver demain de Ramallah pour assister aux festivités, a d'ores et déjà annulé sa visite.
Sébastien Legénie, merci. En direct de Jérusalem, je vous parlais des murs il y a un instant. Il en sera question dans la deuxième partie de la grande table. Je vous l'ai dit tout de suite après ce mot de météo, Caroline, avec du soleil sur le sud-est, une alternance d'averses et d'éclaircies sur l'ouest, de la pluie et du vent au nord. Les températures de 8 à 20 degrés cet après-midi.